La première édition du jour est signée Claire Flochel et je vous dis bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Benjamin Griveaux portera les couleurs de la République en marche pour les municipales 2020 à Paris. La commission nationale d'investiture du parti présidentiel l'a choisi hier soir. Pas vraiment une surprise, analyse de Stéphane Robert dans ce journal.
Le grand oral de la nouvelle présidente de la Commission européenne hier au Parlement européen, elle a promis de défendre le climat et l'état de droit.
Elle s'est dite prête aussi à accorder plus de temps aux Britanniques pour divorcer avec l'Union, mais sa prestation n'a pas été unanimement saluée, loin de là. Le plus grand aéroport du monde se trouve désormais à Pékin. Il devrait être opérationnel avant le 30 septembre. Visite en avant-première avec notre correspondante sur place. Benjamin Griveaux souhaite une campagne digne. Propos tenu après sa victoire hier. C'est donc lui qui portera les couleurs de La République En Marche lors des municipales à Paris l'année prochaine. Hugues Ranson et Cédric Villani, les deux autres prétendants, n'ont pas convaincu le comité d'investiture du parti. En tout cas, la victoire de l'ancien porte-parole du gouvernement, on s'y attendait, Stéphane Robert.
Ce n'est pas vraiment une surprise. Benjamin Griveaux était le grand favori de cette course à l'investiture. Le troisième homme, le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Ranson, s'était déclaré beaucoup trop tard, il y a quelques semaines seulement. Son autre rival, le député mathématicien Cédric Villani, avait lui réussi à entretenir une sorte de faux suspense en ralliant à sa cause un certain nombre de soutiens, notamment l'ex-secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. Mais sa candidature est sans doute apparue un peu trop farfelue, avec en termes de résultats des perspectives beaucoup trop aléatoires pour qu'Emmanuel Macron mise sur ses chances de victoire. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la Commission nationale d'investiture qui a fait le choix de Benjamin Griveaux, pas plus que le parti En Marche, soi-disant chargé d'entériner les recommandations de cette commission. Les enjeux des municipales à Paris sur la suite du quinquennat sont beaucoup trop importants pour qu'Emmanuel Macron laisse le soin à d'autres de prendre une décision. C'est évidemment lui et lui seul qui décide, expliquait hier soir un conseiller, parce que c'est lui et lui seul qui devra assumer les conséquences d'une victoire ou d'une défaite. Ce qui est un peu surprenant dans le choix de Benjamin Griveaux, c'est qu'il est très clivant, qu'il suscite même plus de rejets que d'adhésion, selon un sondage publié à la fin du mois de juin. On pourrait dès lors se demander si sa légitimité ne pourrait pas être contestée. Cédric Villani entretenait d'ailleurs hier soir un doute sur un éventuel maintien de sa candidature. « J'aurai prochainement l'occasion de m'exprimer sur les perspectives qu'il convient à présent d'ouvrir », a-t-il déclaré sur Twitter.
Le député mathématicien Cédric Villani, quant à lui, s'est bien gardé de féliciter son rival. Il laisse entendre qu'il pourrait se présenter malgré tout. Au sein des Républicains, Guillaume Pelletier, lui, renonce à briguer la présidence du parti. Après le départ de Laurent Wauquiez, la place reste à prendre. Le député du Loir-et-Cher dit apporter son soutien à Christian Jacob, le favori. Ursula von der Leyen, elle est toujours en campagne au Parlement européen. La ministre allemande de la Défense, désignée par les dirigeants de l'Union européenne, doit recueillir la majorité des voix des eurodéputés la semaine prochaine pour pouvoir officiellement succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Hier, elle était auditionnée par les socialistes, les centristes et les verts sur son projet et elle n'a pas vraiment fait mouche, loin de là, Angélique Bouin.
Une journée marathon où la candidate a alterné l'anglais, l'allemand et le français.
Je suis ici au cœur de la démocratie européenne. Et moi, je suis une européenne de cœur et de conviction.
Des auditions en trois langues, certes, mais qui n'ont pas convaincu tout le monde. Pour le porte-parole des Verts, elle n'a aucune réponse claire sur aucun sujet. Chez les socialistes, dont elle a pourtant besoin du soutien, la critique est vive, elle aussi. Faute d'engagement assez net sur son programme pour les cinq ans à venir, le groupe lui demande de revoir sa copie. Pour l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, le compte n'y est pas.
C'est très insuffisant sur les questions sociales, très insuffisant sur les questions de traité de libre-échange, très insuffisant sur les questions des droits humains et des exilés. On a considéré comme acquis, a priori, le vote du Parlement, mais je pense que c'est un Parlement qui peut exercer son droit et des députés qui ne sont pas des soldats ni des godillots de chefs d'État et de gouvernement.
Des dirigeants qui avaient envisagé de confier le poste à un socialiste, d'où sans doute l'amertume qui règne encore au sein du groupe, mais irait-il jusqu'à empêcher son élection? Non, selon un bon connaisseur des institutions. Le vote pourrait en revanche être reporté au mois de septembre, le temps pour Ursula von der Leyen d'affiner son projet et de de muscler sa majorité.
Reportage signé Angélique Bouin.
Le Sénat adopte en nouvelle lecture le projet de loi Notre-Dame avec modification, Claire Flochel. Il entérine notamment l'ouverture d'une souscription nationale pour gérer les dons qui ont afflué après l'incendie il y a 3 mois.
Les sénateurs ont aussi tenté d'obtenir des garanties face aux dérogations voulues par le gouvernement qui voudrait, pour restaurer la cathédrale dans les 5 ans, s'affranchir des codes du patrimoine, de l'environnement ou de l'urbanisme. Mais le texte va maintenant retourner à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Écoutez le rapporteur Alain Schmitt, sénateur LR des Yvelines.
Le gouvernement souhaitait une loi pour s'asseoir sur la loi. Alors, c'est un texte qui a été considérablement amélioré par le Sénat. Il y a eu des grands progrès. Ce qu'on peut se dire, c'est que ces progrès touchant notamment à l'absence des dérogations au Code du patrimoine et à la création de l'article de l'établissement public, c'est-à-dire l'article 8 et l'article 9, c'est ce que nous avions défendu en première lecture. Autre chose que je voulais dire où nous avons gagné, c'est l'absence de dérogation au Code de la publicité. Vous avez vu que ça a été extrêmement verrouillé. Il n'y aura pas de publicité commerciale à travers des grandes bâches qui couvriraient la cathédrale. Est-ce à dire que ces améliorations seront conservés. Il est très probable que les amendements du gouvernement seront remis en œuvre par l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.
Qu'est-ce qui vous inquiète justement dans ces amendements du gouvernement ?
Je dirais, je suis quand même profondément rassuré par la parole du ministre de la Culture. Mon inquiétude, sera-t-il vraiment à la manœuvre du début jusqu'à la fin ? Est-ce que c'est le président de la République qui voudra imposer, j'allais dire, une geste présidentielle sur ce monument qui, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ne peut être que restauré tel quel était son état avant l'incendie ? Le chantier de la cathédrale va être observé par tous les amoureux du patrimoine et les professionnels du monde entier. Donc il y a des règles, il convient de les respecter.
Alain Schmitt, sénateur LR des Yvelines, au micro de Cécile de Kervas-Doué. Comment voyez-vous le métier de marin-pêcheur ? L'Assemblée nationale ouvre une consultation en ligne pour recueillir des avis de professionnels de la pêche, mais aussi du grand public. La consultation se déroule tout au long du mois de juillet et a pour vocation de mieux cerner l'image de la profession. Diane Berger nous explique pourquoi.
Quelle technique de pêche connaissez-vous ? Comment qualifier le lien entre le pêcheur et son environnement ? Ou bien trouvez-vous claires les informations sur les poissons que vous achetez ? Ce sont quelques-unes des questions posées par l'Assemblée nationale alors que le secteur de la pêche est confronté à plusieurs défis. Stéphane Pinto est vice-président du comité régional des pêches des Hauts-de-France.
S'il y avait un Brexit dur, ça serait une catastrophe. On se retrouverait tous dans les eaux territoriales françaises et là, il y aurait vraiment un gros souci de cohabitation. Et puis la ressource en prendrait plein la tête. Mais il n'y a pas que le Brexit. Il y a toutes ces techniques de pêche qui dites innovantes. Nous, on a subi la pêche électrique, on le subit encore. Tout le monde va partir en retraite, on n'a pas de renouvellement au niveau des jeunes, voilà quoi. Il y a des inquiétudes dans tous les domaines.
Hein. L'Assemblée nationale veut répondre à ces enjeux, mais le débat n'est pas réservé aux marins pêcheurs. La consultation en ligne s'adresse surtout au grand public. Pour Mathieu Colletter de l'association de protection des océans Bloom, il faut que les citoyens s'emparent du sujet.
C'est quand même utile de rassembler les avis sur la question de la pêche, notamment parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez peu évoquée. Qui n'est pas une question qui est prégnante dans le débat public, alors que quand on parle d'océan, quand on parle de ressources marines, on parle de biens communs qui devraient donc concerner tout le monde et donc sur lesquels il est important d'initier un débat et donc de rassembler les avis les plus larges.
L'association attend maintenant les propositions des députés pour promouvoir une pêche viable pour la planète.
Diane Berger. La Grèce, frappée par des orages et des vents violents, au moins 6 touristes étrangers dont un enfant ont été tués cette nuit dans le nord du pays, dans la chute d'arbres ou de toitures. Un chantier de 45 milliards d'euros et la Chine s'offre le plus grand aéroport au monde. Il se trouve à 46 km au sud de Pékin. Il a été conçu pour répondre à l'envolée du trafic aérien qui augmente chaque année dans le pays de 7 à 10%. Ce nouvel aéroport devrait recevoir à terme 100 millions de passagers par an. Dominique André, notre correspondante en Chine, a pu le visiter.
L'aéroport ressemble à une gigantesque étoile de mer dotée de 5 branches qui mènent aux avions. Le terminal unique, vert et intelligent est conçu par la filiale ingénierie d'ADP dirigée par Gracien Maire.
On recourt à des matériaux innovants, à la géothermie, aux cellules photovoltaïques. On utilise des véhicules électriques de manière à diminuer autant que possible l'empreinte carbone de l'aéroport. Partout, vous avez des systèmes qui font appel à des nouvelles technologies, tout ce qui est big data, intelligence artificielle, qui vont permettre aux passagers de se diriger de façon naturelle en utilisant les outils modernes comme les smartphones.
C'est unique au monde, les trains express arriveront directement dans le sous-sol de l'aéroport. Les arrivées et les départs des vols domestiques se feront au même étage. Les passagers feront donc leurs achats dans la même zone commerciale où Thierry Bardou supervise l'installation de panneaux publicitaires démesurés pour le groupe français JC Deco.
La taille des aéroports en Chine nous a amené à développer des formats assez exceptionnels, qu'ils soient verticaux, qu'ils soient horizontaux. Tous ces nouveaux aéroports sont des opportunités extraordinaires pour accompagner les marques sur le marché chinois.
Conçu par la France, construit par la Chine, le plus grand aéroport du monde sera inauguré par Xi Jinping le 30 septembre.
Dominique André, correspondante de France Culture en Chine. La météo de ce jeudi, de la pluie sur le nord et le nord-est de la France, ciel variable sur la façade de l'Atlantique et le centre, du beau temps dans le sud. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 24 degrés. On notera que 49 départements sont concernés par des restrictions d'eau à cause de la sécheresse. 17 d'entre eux sont même en situation de crise d'après les autorités.